Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment nourrir toute l'humanité durablement ? La question du jour qui tient en 5 mots est aussi facile à poser que délicate à traiter. Commençons par donner 2 ou 3 chiffres. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, environ 5 milliards d'hectares sont utilisés à la surface de la Terre pour l'agriculture. Cela représente 38% des terres émergées. Et selon le GIEC, qui publie ces jours-ci son nouveau rapport, l'agriculture est responsable de près du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, via notamment l'émission de méthane par le bétail, de protoxyde d'azote par l'utilisation des engrais, et aussi par la déforestation qu'elle induit. Et si, en plus, l'on tient compte d'autres phénomènes en cours, tels que la réduction de la biodiversité ou l'érosion des sols, alors on est en droit de se poser la question de l'avenir de ce modèle. Comment faire pour que l'humanité soit nourrie par une agriculture qui puisse perdurer? Cette question est d'autant plus pertinente que les besoins en eau de l'humanité augmentent du fait de la croissance démographique d'une part, des modifications des régimes alimentaires d'autre part, alors même que les ressources en eau sont affectées par le changement climatique. Qu'en sera-t-il, par exemple, en 2050, de l'équilibre entre l'offre et la demande en eau? Et pourra-t-on garantir cet équilibre en préservant l'environnement et en évitant les pénuries, les famines, les conflits, les migrations? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Mauguin. Bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes ingénieur agronome et vous êtes depuis le 1er janvier 2020 le président directeur général de l'INRAE, c'est-à-dire de l'Institut National de Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Nous sommes le 28 février et vous rentrez à l'instant du Salon International de l'Agriculture. Quelle est l'ambiance dans les travées ?
L'ambiance au Salon de l'Agriculture, elle est marquée, je pense, comme l'est notre société, nos sociétés marquées par la crise, la guerre en Ukraine, qui tombe au moment où on sortait de la pandémie du Covid avec une reprise d'activité agricole et agroalimentaire, où on a évidemment devant nous des sujets importants à traiter, comme, et vous l'avez évoqué dans l'introduction, la question du défi du climat, du défi de la biodiversité, comment on adapte nos agricultures à ces bouleversements. C'est ça les sujets qui étaient et qui sont encore à l'ordre du jour, on va y revenir, mais la crise en Ukraine évidemment est tombée comme un couvercle sur une partie de ces débats.
Mais est-ce que ça a un impact direct sur l'agriculture en France, par exemple ?
Alors, ça a un impact direct, et ça va avoir un impact direct. On a encore du mal à en mesurer l'ampleur. Il va s'exercer sur 2 ou 3, au moins sur 2 ou 3 leviers de l'agriculture. Le prix de l'énergie, qui touche toutes les activités humaines, y compris les activités agricoles, a commencé d'augmenter, déjà ces dernières semaines, et va continuer. Le prix des engrais. Les engrais azotés et le phosphate qui sont importés notamment de Russie et d'Ukraine va augmenter. Il est lié au prix du gaz qui lui-même augmente. Donc là, ça fait une tension, une augmentation des charges pour les secteurs économiques, les secteurs agricoles. On l'a vu aussi, et ça c'était avant la crise en Ukraine, le cours du blé est un très haut niveau au niveau international. La Russie et l'Ukraine font partie des greniers à blé de l'Europe et du monde. Pour le moment, les récoltes circulent, sont commercialisées, mais évidemment, on peut penser qu'il y aura soit des risques en termes de réensemencement des futures récoltes 2022-2023 du côté de l'Ukraine, potentiellement du côté de la Russie. Il peut y avoir des tensions aussi commerciales sur les échanges. Et donc, si ces tensions se confirmaient, alors ça aura des effets encore plus inflationnistes sur le prix du blé. Ça peut avoir un effet positif pour les céréaliers français et européens qui verront leur récolte mieux valorisée, mais ça a un effet très dur pour les éleveurs et pour les consommateurs, tous ceux qui utilisent des céréales. Donc c'est difficile de faire la part des choses, mais disons que ces deux effets combinés inquiètent, et c'est logique, les agriculteurs au salon.
En plus des inquiétudes qu'ils avaient indépendamment de la crise ukrainienne.
Oui, alors c'est vrai que l'agriculture, ou on pourrait dire les agricultures, on a des modèles agricoles assez diversifiés en France et en Europe, sont confrontés à des transitions qu'on appelle pudiquement des transitions. Hein, ça, on pourrait aussi, sur certains aspects, parler d'évolution ou de révolution à conduire, des transitions qui sont complexes. En fait, on a des marchés agricoles et alimentaires qui sont quand même très largement libéralisés au niveau mondial. Il y a encore des protections douanières, mais qui ont été baissées depuis ces dernières décennies. Il y a des accords tarifaires, mais globalement, beaucoup de denrées circulent. Donc la compétition, elle est potentiellement mondiale, avec des marges qui sont le plus souvent faibles, des niveaux de revenus qui peuvent être très étroits, des attentes sociétales qui sont fortes, on le sait, dans nos pays, notamment en France, mais plus largement en Europe. Il y a des attentes fortes pour modifier, et c'est fondé en partie hein, par la question de la biodiversité, la question du climat, modifier les conditions de production. Donc les agriculteurs, agricultrices se sentent souvent mis en tension entre cette concurrence qui est dure, une rentabilité de leur activité qui est faible, des investissements potentiellement à faire élevés et des attentes de transformation dont ils ont le sentiment qu'elles sont plus fortes ici qu'ailleurs. Et que quelque part, ça les met en tension dans une forme de ciseau qui est difficile à tenir. Et donc tout l'enjeu, et notamment l'enjeu de nos recherches à INRAE, puisqu'on les conduit pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour l'environnement, pour la planète et pour la société, c'est de trouver des leviers, de trouver des éléments de solution qui vont permettre de réussir ces transitions, qui sont des transitions multiples, transitions écologiques, transitions énergétiques, transitions alimentaires aussi, on y reviendra peut-être, parce que on essaye de trouver de concevoir des systèmes alimentaires qui respectent mieux la planète, les ressources, et qui respectent mieux la santé humaine. Et c'est possible. Et donc, toutes ces transitions combinées en même temps, à des échelles de temps qui sont pas forcément les mêmes, c'est des gros chantiers. Voilà.
Donc, je l'ai dit, vous êtes le patron de l'INRAE, qui est un institut national de recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement combien de chercheurs y travaillent, dans quelle discipline? J'imagine que c'est très multidisciplinaire.
Oui, c'est ça. C'est l'une des forces et des richesses d'INRAE. C'est d'avoir à la fois un bouquet de disciplines de recherche scientifique qui peuvent être des recherches très fondamentales pour comprendre le vivant. On a des biologistes, des écologues, des agronomes, des généticiens dans le secteur animal, végétal, dans le secteur microbien, des pédologues, des climatologues, des mathématiciens, des bioinformaticiens, des sociologues, des économistes, en gros toute la palette des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales et des sciences biotechniques sont représentées dans l'Institut. Ça, c'est une des caractéristiques. La deuxième, c'est que on est un organisme de recherche finalisé, donc on essaye de partir des meilleures connaissances internationales et en y contribuant jusqu'à l'application, jusqu'à la conception de solutions. Ça veut dire que on a des très beaux laboratoires de recherche, des infrastructures pour comprendre le vivant, de génomique, de phénotypage et bien d'autres, mais aussi des unités expérimentales. On pilote des vraies fermes, on pourrait dire, ou des fermes expérimentales dans les différents secteurs de production, pas loin de 10 000 hectares en France, sur une trentaine d'unités qui sont réparties sur le territoire, qui sont connectées à nos laboratoires de recherche, où nos chercheurs viennent discuter avec les ingénieurs, les techniciens, qui vont à la fois déployer des protocoles. On va tester des nouvelles semences, des nouvelles variétés sur des toutes petites surfaces, mais on le fait aussi en partenariat avec des agriculteurs, avec des lycées agricoles, avec des ingénieurs qui sont dans les instituts techniques. Et donc, c'est des, on pourrait dire, des formes d'incubateurs ou de lieux d'innovation ouverte qui font le lien entre la recherche amont et entre les applications. Ça, c'est une des grandes forces d'INRAE. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est le premier organisme de recherche dans notre domaine en Europe, clairement. Traditionnellement, on se positionnait en seconde place au niveau international derrière nos collègues américains. Et en fait, on a conduit une fusion il y a 2 ans entre l'INRA, que beaucoup connaissent l'Institut National de la Recherche Agronomique, et l'IRSTEA, qui était l'institut spécialisé sur les techniques de l'environnement au service de l'agriculture. Et INRA plus IRSTEA, ça a donné le INRAE. Avec ce « et » qui vient compléter, donner aussi du sens, la recherche pour l'agriculture, pour l'environnement et pour l'alimentation. Et on est devenu le premier organisme de recherche au monde qui travaille sur la connexion entre l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Est-ce que la question de l'alimentation peut être traitée à un niveau vraiment mondial, sachant que les systèmes ont des différences très grandes à la surface de la planète ?
Alors, c'est une question cruciale. En fait, on a des déterminants qui sont, je pense, communs. Et après, il y a évidemment des différences et des spécificités à conduire en fonction des pays. On pourrait même dire, quand on parle d'agronomie, des agroécosystèmes, mais aussi des régimes alimentaires, on va tenir compte des spécificités culturelles. Comme on l'a souvent dit quand on parle des questions du développement durable, depuis Rio jusqu'à aujourd'hui, il faut penser global, agir local, et c'est vrai dans nos domaines aussi. Et en fait, on ne peut pas concevoir des systèmes agricoles pour les années 2030-2050 en France si on n'a pas une bonne vision de l'évolution du climat, évidemment. Grâce aux travaux du GIEC, auxquels un certain nombre de nos chercheurs contribuent, et à la façon dont on décline les projections du GIEC sur l'évolution du climat en 2050 dans nos territoires, on peut faire des projections agroclimatiques à l'échelle de l'Occitanie, à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle d'une région plus précise, à l'échelle de communautés de communes. On peut, et c'est un outil évidemment très puissant pour se projeter dans ces transitions avec les agriculteurs, dire ben voilà, 2030-2050, voilà ce qui risque de se passer dans votre territoire en termes d'accès aux ressources en eau, en termes de sécheresse, en termes d'évolution des températures. Face à ça, vos productions actuelles, comment elles se positionnent ? Point fort, point faible, comment on peut évoluer ? Comment on va concevoir des trajectoires ? Donc, on a besoin de la vision globale, la connaissance des grands défis, des grands changements, climat, biodiversité aussi. Mais après, évidemment, il faut qu'on soit en capacité de concevoir des scénarios de transition dans les territoires. Et c'est vrai aussi pour l'alimentation. Il y a des données qui sont des données à partager. Celles que l'OMS produit sur les régimes alimentaires, qui sont le plus adaptés aux différents âges de la vie, c'est quand même des références. On sait qu'on doit aller vers un rééquilibrage des régimes alimentaires entre les protéines animales et les protéines végétales. C'est des données qui sont quand même assez fortes et qui sont valables à l'échelle de la planète. Après, la façon de les décliner dans des régimes alimentaires, dans des diètes, entre l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, évidemment, elle ne sera pas la même. On ne part pas du même point, on n'a pas les mêmes systèmes culturels. Et donc, on va partager des données nutritionnelles avec mes collègues du monde entier, puisqu'on a des partenariats INRAE avec les grandes universités, les grands centres de recherche dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, et aussi de plus en plus en Afrique, avec nos collègues du CIRAD. On va partager des modèles, on partage des données, mais après on les introduit dans la réalité des systèmes alimentaires locaux. Sinon ça n'a pas de sens. Si on imaginait une solution unique pour les agricultures du monde, évidemment on ferait fausse route.
Philippe Mauguin, on a parlé de l'eau, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu plus. Il est évident qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Le cycle de l'eau est un cycle fermé. Il n'y a pas d'apport ni perte à l'extérieur de la planète. Et l'eau douce, d'après ce que j'ai lu, représente moins de 3% du volume total d'eau présente sur Terre. Et le volume d'eau qui est d'eau douce, qui est utilisé chaque année par l'humanité, est 6 fois le volume de la Manche. Or, le GIEC a démontré que le changement climatique accélère le cycle de l'eau. Il y a plus d'évaporation, plus de pluies extrêmes. Ces pluies qui convergent vers les océans sans recharger les nappes. Est-ce qu'on va manquer d'eau douce un jour ? Et l'agriculture étant le secteur qui consomme le plus d'eau, est-ce qu'elle sera la première touchée ?
Oui, alors c'est certainement l'eau, dans le contexte du dérèglement climatique, la ressource qui va être la plus critique. C'est déjà le cas aujourd'hui dans beaucoup de zones de production agricole au monde. Il y a des tensions sur la ressource en eau. On pourrait dire que dans notre pays, on a été relativement préservé, même s'il y a des moments de tension, hein, chaque année ou presque, ou une année sur deux, on peut se retrouver dans des zones où la sécheresse et la baisse du niveau des nappes se traduit par exemple, des problèmes d'approvisionnement en fourrage pour les élevages, qui n'arrivent pas à avoir assez de foin pour passer l'hiver. Et donc on a des zones qui peuvent se trouver en grande tension. On peut avoir aussi des zones de production de céréales ou de grandes cultures qui vont être en tension sur l'eau déjà aujourd'hui en France et qui ne peuvent pas toutes accéder à l'irrigation. Pour donner un ou deux chiffres, on a 40% de la production alimentaire mondiale qui est irriguée aujourd'hui, en 2022. Et ces 40% sont utilisés par 20% des terres agricoles mondiales. Donc toutes les terres n'ont pas accès à l'irrigation, toutes n'ont pas forcément besoin, mais 20% des terres agricoles, et qui sont évidemment importantes pour l'équilibre alimentaire, on consomme déjà cette irrigation. Et on sait que, vous l'aviez dit ou esquissé, 75% des ressources totales en eau douce sont consommées à l'échelle mondiale par l'agriculture. C'est vital. On a besoin d'avoir cette eau. Il peut y avoir évidemment du gaspillage dans certains systèmes d'irrigation sur lesquels on travaille pour les réduire, mais il y a incontestablement un besoin d'eau.
Mais le point important, c'est que l'eau consommée par les plantes n'est pas restituée localement.
Alors c'est ça. Elle n'est pas restituée immédiatement localement. Il y a l'eau verte, l'eau bleue, comme on dit, l'eau bleue qui circule des lacs, des cours d'eau jusqu'à la mer, et l'eau verte qui passe entre la plante et dans le sol, qui peut rejoindre les nappes. Ensuite, et rejoindre le grand cycle de l'eau, mais ça ne se fait pas immédiatement.
Elle est évapotranspirée.
Voilà.
Si j'ai bien compris.
C'est ça. Donc, on a les phénomènes d'évapotranspiration. Il faut savoir que les plantes en été peuvent perdre jusqu'à 2 fois leur poids en eau par évapotranspiration, contre 2% pour les hommes. Donc nous, on perd 2% de notre poids pendant l'été quand il fait très chaud. Les plantes peuvent en perdre 2 fois leur poids. Donc il y a vraiment une interdépendance forte. Et comme on a besoin des plantes, et y compris si on rééquilibre le régime alimentaire entre l'animal et le végétal, on aura besoin de plantes. Et donc ce sujet, il est majeur. Donc on a heureusement des pistes, parce que si on se projette en 2050, alors avec le meilleur scénario du GIEC, 1,5 degré, qu'on aura probablement malheureusement du mal à atteindre, ou avec l'état des promesses des pays dans les engagements de la COP, on est plus à proche des plus 2,7 degrés, les situations de sécheresse vont augmenter. Les épisodes tendus climatiques vont augmenter. Les zones d'agriculture du monde qui seront au moins chaque année soumises à un stress hydrique fort vont augmenter. Donc ça va pas se résoudre tout seul, la question de l'eau. Alors il peut y avoir, mais je vais pas évoquer ça aujourd'hui, certains y travaillent, des voies de désalinisation de l'eau de mer pour le moment. Enfin, c'est coûteux en énergie, ça déplace quand même les problèmes. Et c'est aussi coûteux d'un point de vue économique. Donc nous, ce qu'on fait à INRAE dans nos recherches en France, mais aussi avec nos partenaires dans le monde entier, c'est de travailler sur à la fois une moindre consommation d'eau, et ça peut se passer, ça rejoint la question de l'adaptation au changement climatique pour les plantes, mais aussi pour les animaux. On va avoir plein de stratégies, on va pas avoir une seule solution, mais on va combiner des leviers. Selon le moment où on va planter, on va faire les semis. Si on les décale en fonction des pics de chaleur, on va déplacer la vulnérabilité sur les stades critiques de la plante à des moments où c'est moins gênant. On va pouvoir jouer déjà sur ce levier-là. C'est vrai aussi quand on veut éviter des moments de gel, puisque on n'aura pas que de la sécheresse avec le dérèglement climatique. On aura aussi des aléas climatiques avec des amplitudes assez fortes. On pourra passer de situations d'inondation à des situations de sécheresse. On pourra avoir des gels tardifs qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses, notamment sur les arbres fruitiers ou sur la viticulture. Donc on peut jouer sur ce premier levier. On va aussi travailler en sélection variétale sur des variétés végétales, des espèces végétales qui consomment moins d'eau. Et pour ça, c'est pas nécessairement des organismes génétiquement modifiés. Il y a évidemment dans le monde entier des recherches qui sont faites avec les biotechnologies pour trouver des gènes. Mais c'est pas si simple d'utiliser, parce que le caractère de résistance à la sécheresse, il est en général très polygénique. Et donc on va avoir des combinaisons de gènes. Donc on regarde ce que peuvent apporter les biotechnologies. On a des laboratoires qui travaillent là-dessus, mais on regarde aussi comment on peut valoriser la variabilité génétique naturelle. Donc on a des collections de ressources naturelles, de ressources génétiques qui sont très importantes dans tous les secteurs, en France puis au niveau mondial. Et donc avec le phénotypage, qu'on appelle le phénotypage haut débit, on va essayer de caractériser la réponse au stress hydrique des plantes. Et quand on dit qu'on fait du phénotypage au débit, eh bien c'est qu'on va pouvoir passer des milliers de plantes différentes, très légèrement différentes, avec un génome un petit peu différent, pour voir comment elles répondent à ces situations de stress hydrique. Il faut, si on veut trouver le bon individu qui a une combinaison de 10 gènes, on va le trouver dans 1 million d'individus. Donc c'est des, un peu comme la recherche médicale va screener des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de molécules pour trouver un anticancéreux ou pour trouver une molécule efficace. Et ben, on va, pour trouver les plantes de demain, puiser dans la grande diversité du vivant avec ces outils. C'est vrai pour le blé, c'est vrai pour le maïs, c'est vrai aussi pour les prairies. On a des outils de phénotypage pour les graminées qu'on va semer dans les prairies. Et donc, il faut imaginer des champs avec des panneaux qui sont pilotés en fonction du climat et qui vont permettre de comparer la résistance au stress hydrique d'une partie de la prairie qui aura jamais de pluie. On va toujours empêcher la pluie de tomber avec la parcelle d'à côté qui, elle, va être exposée à un rythme de pluie. Et donc, ces outils, on a ça à côté de Poitiers, ces outils de simulation de phénotypage permettent de sélectionner des variétés. Donc, on décale éventuellement les cycles de végétation. On trouve des variétés qui résistent mieux. On a évidemment des recherches sur l'irrigation pour avoir une moindre consommation d'eau, une irrigation qui arrive juste au bon moment, au bon niveau des racines. Ça peut nous permettre déjà d'avoir gagné une partie importante de l'eau consommée. La façon dont on insère ces techniques dans ce qu'on appelle les rotations, les enchaînements de cultures sur les terres agricoles va aussi jouer un rôle. On a des recherches très intéressantes, et les agriculteurs le font déjà, hein. Un certain nombre d'agriculteurs sont engagés dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc on va cesser de labourer le sol, ce qui permet de désherber facilement, mais a aussi des conséquences sur la santé des sols, la vie microbiologique peut fracturer les sols et peut aussi les assécher. Donc en maintenant en permanence des couverts végétaux sur les sols. Et les agriculteurs vont enchaîner des couverts et le sol sera couvert toute l'année. C'est intéressant pour la lutte contre le changement climatique parce qu'on montre que ça permet de stocker du carbone, du CO2 de l'atmosphère, à progressivement être stocké dans le sol. Et c'est bon aussi pour les régimes hydriques.
On va y venir, Philippe Mauguin, mais je me souviens que pendant la COP21 de 2015 à Paris, la question de l'eau avait été largement discutée et une initiative avait été prise qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000. En quoi elle consiste et où est-ce qu'on en est?
Alors, l'initiative 4 pour 1000 avait été lancée effectivement au moment de la COP après une discussion entre Stéphane Le Foll, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, et des chercheurs de l'INRA, du CIRAD et de l'IRD qui présentaient leurs recherches dans un congrès sur les sols et qui montraient que selon les techniques qui étaient utilisées en agronomie, notamment ce qu'on appelle l'agroforesterie, on combine sur des terres agricoles la présence d'arbres avec des variétés agricoles, la couverture des sols, justement, certaines autres approches en agroécologie, on pouvait stocker du carbone de façon durable. Et que avec la combinaison de ces pratiques, on pouvait enrichir de 4 pour 1000, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, la matière organique des sols en carbone chaque année, et que ce 4 pour 1000, si on l'appliquait sur l'ensemble des sols agricoles de la planète, il contribuerait à stocker l'équivalent de la production annuelle de CO2 par l'homme. Donc, c'est un peu l'idée.
Donc, l'agriculture serait une partie de la solution.
Exactement. L'agriculture est à la fois une partie des causes, comme toutes les activités humaines produisent des gaz à effet de serre, hein, vous l'avez rappelé, l'oxyde nitreux au moment où on épand les engrais, le méthane avec notamment les produits par l'élevage qu'il faut réduire. Mais c'est aussi une partie de la solution.
Et ça, c'est le miracle de la photosynthèse.
C'est le miracle de la photosynthèse. Et du coup, c'est intéressant aussi, et c'est ça le message un petit peu dont on a besoin en ce moment, un message un petit peu optimisme, l'optimisme de la raison et de la volonté, c'est que on a des solutions. Les transitions à conduire, l'équation alimentaire pour nourrir la planète de façon durable, elle est énorme. On pourrait penser que c'est une équation impossible quand on regarde l'ensemble des défis, l'ensemble des transitions à conduire. Et quand on revient ensuite à ce que produit la science dans nos laboratoires, les solutions qui sont en train d'être co-conçues avec les agriculteurs dans différentes régions du monde, on voit qu'on a des bouquets de solutions. Et de fait, le 4 pour 1000, l'approche de l'agriculture de conservation des sols qui combine du carbone qu'on retire de l'atmosphère, qui est un élément de fertilité ensuite, qui va améliorer les rendements agronomiques, c'est typiquement une de ces bonnes solutions.
Mais si cette transition agroécologique est obligatoire, c'est bien parce que le modèle actuel n'est pas durable.
Oui, alors les modèles actuels ont été, si on se remet un peu dans une perspective historique, ils ont été conçus dans les années 1950, dans la sortie de la guerre. Alors à l'échelle de l'Europe déjà, on avait une forte dépendance et une insuffisance alimentaire avec la volonté de rendre l'Europe souveraine au niveau alimentaire. Donc ils se sont basés, l'intensification de la production agricole, elle s'est basée, c'est vrai, sur l'agrandissement des exploitations, la mécanisation qui arrivait dans les fermes, qui s'est largement développée, et l'utilisation des ce qu'on appelle les intrants, les engrais de synthèse qui permettaient d'augmenter les rendements, et les produits phytosanitaires pour protéger les récoltes. Ça s'est développé en Europe, aux États-Unis et progressivement dans le monde. C'était ce que on pouvait appeler une révolution verte, au sens où l'offre alimentaire a été triplée entre 1950 et 2000. Ça n'a pas suffi pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire mondiale, qui n'est pas lié qu'à l'offre alimentaire, mais aussi aux inégalités, aux régimes politiques, à l'organisation des systèmes alimentaires dans le monde. Mais en tous les cas, ça a limité les dégâts. Le triplement de l'offre alimentaire, on peut dire que ça a été une réussite. C'est au tournant des années 90-2000 qu'on a commencé de mesurer ce qu'on appelle, les économistes appellent, les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact que ces modèles, qui étaient effectivement très intensifs avec des bons niveaux de rendement de production, avaient sur l'environnement. Les pollutions par les nitrates dans les nappes phréatiques, la question de la pollution aussi des sols, les produits phytosanitaires qui ont été de plus en plus regardés comme étant des sources à la fois de pollution pour les sols, l'eau, mais aussi pour les humains. Les réglementations se sont durcies, mais le problème de la durabilité de ce système est apparu de plus en plus évident. Et c'est depuis les années 2000 que le débat s'est enclenché, au moins dans nos pays, en Europe, dans une moindre mesure aux États-Unis et beaucoup moins dans d'autres continents, de changer de modèle. Et de faire d'opérer ce qu'on qualifie aujourd'hui de transition agroécologique, c'est-à-dire, et c'est là qu'il y a un vrai défi, c'est qu'on ne peut pas désarmer la production agricole et la production alimentaire alors que la population augmente, qu'on est en proie à des crises. On sort de la crise du Covid qui a quand même secoué toutes les économies du monde, et la nôtre a plutôt bien résisté, pour rentrer dans une économie qui est potentiellement impactée par la guerre. Et donc on voit bien que, j'aime pas utiliser le terme d'arme alimentaire, puisque c'est plutôt la paix alimentaire dont on a besoin au niveau mondial, mais on a besoin, on peut pas se passer de l'alimentation. Donc la transition agroécologique, c'est pas un renoncement à la souveraineté, c'est pas un renoncement, c'est pas un désarmement, c'est autre chose, c'est une forme de mutation. On doit passer d'une intensification de l'agriculture qui a été obtenue notamment par les intrants issus de la pétrochimie à une intensification écologique de l'agriculture. Mais comment on va optimiser toutes les solutions basées sur la nature avec de la technique, avec l'appui du numérique, avec l'appui de l'innovation, avec les progrès de la génétique, pour maintenir les rendements, voire les augmenter, en utilisant beaucoup moins de ressources en eau, assurément, moins de ressources issues de la pétrochimie, et en essayant, comme vous le disiez en introduction, et on va peut-être y revenir ensuite, parce que c'est intéressant de voir les convergences entre ce qu'on fait au niveau agricole et ce qu'on fait au niveau alimentaire, et comment on produit aussi des aliments qui sont adaptés à la santé de l'homme.
Justement, c'est ma question, est-ce qu'on peut manger de façon saine et d'une façon qui soit durable? Si nous ne mangeons que des produits gras et sucrés, dont la production est peu émettrice de gaz à effet de serre, notre régime alimentaire aurait un faible impact sur l'environnement, mais il aurait des effets délétères sur notre santé. Si au contraire on supprimait les sodas, la charcuterie, les chips, pour nous nourrir de fruits et de légumes, l'effet sur l'environnement serait plus grave, mais notre santé en bénéficierait. Et donc est-ce qu'il existe un régime alimentaire qui soit à la fois sain, respectueux de l'environnement, et acceptable d'un point de vue économique?
Alors,
c'est l'équation.
C'est ça l'équation. Et c'est vrai que on a des pistes de solutions qui font converger, et on a mené d'ailleurs, on a lancé des programmes de recherche sur ce qu'on a appelé le nexus, la connexion entre l'alimentation, l'environnement, la santé. Puisqu'on s'est dit finalement, les citoyens attendent de la recherche et attendent des producteurs agricoles et alimentaires une alimentation de qualité pour leur santé. Et il n'y a pas de raison d'avoir à arbitrer entre la santé des humains et la santé de la planète. Donc il faut vraiment qu'on trouve des convergences. Et si on ne travaillait et on proposait que des régimes alimentaires bon pour la santé humaine et qui effectivement consomment des ressources, à un moment donné, ils ne seront pas durables pour les prochaines générations. Un exemple de régime alimentaire ou d'approche agricole qui sont intéressantes, les légumineuses, les protéines végétales. Je disais que tout à l'heure...
Qu'est-ce qu'on appelle les légumineuses ?
Alors, les légumineuses, donc c'est une catégorie de produits, de production agricole, dans laquelle vous allez avoir...
les lentilles.
Les lentilles, les fameuses lentilles, les pois, les féroles, les haricots, ce qui ont été... Mais aussi, alors, on pourrait penser qu'on revient en arrière. Moi, j'aime pas trop cette idée-là, mais c'est vrai que nos grands-parents ou arrière-grands-parents avaient des régimes alimentaires qui étaient probablement plus équilibrés que ceux que nous avons aujourd'hui. Ils avaient des déficiences. Le progrès de l'agriculture et le progrès économique a permis d'avoir des régimes un peu plus carnés. Ça fait partie du plaisir de la consommation, et c'est bon aussi pour la santé jusqu'à un certain point. Ils sont devenus trop déséquilibrés. Ce qu'on vise dans les régimes alimentaires sains, c'est une forme d'équilibre dans la ration protéique entre les protéines animales et les protéines végétales. Et ça, c'est accessible pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos gourmandises et nos stades de la vie, du plus jeune au plus âgé. On peut et on doit combiner des protéines qui vont être issues des légumineuses, qui vont être issues de la viande, en moindre quantité mais de meilleure qualité. On va les combiner avec des glucides, avec des lipides qui vont être issus des produits laitiers, des légumes et des fruits. Et donc,
mais les légumineuses, elles sont intéressantes pour le sol aussi.
Exactement.
Elles chargent en azote.
C'est ça qui est assez génial. Et heureusement qu'on a quand même des bonnes solutions qui sont issues de ces recherches, et que la légumineuse, elle permet de stocker naturellement dans le sol de l'azote atmosphérique.
Donc ça veut dire moins d'engrais ?
Ça veut dire moins d'engrais. Ça veut dire moins d'engrais azotés, y compris une partie de ceux qu'on importe d'Ukraine et de Russie aujourd'hui. Je dis pas que c'est la solution immédiate à la crise ukrainienne, je fais pas ce genre de raccourci. Mais sur le moyen terme, la transition agroécologique, quand on fait plus de légumineuses, c'est bon pour le sol. Si on le fait avec une agriculture de conservation des sols qui est enrichie en carbone, on a plus de carbone dans les sols et on a de l'azote naturel, c'est bon pour la croissance des plantes, ça va favoriser la photosynthèse et les rendements. Et ces légumineuses, qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Eh ben, elles peuvent soit, selon les types de légumineuses et la façon dont on les transforme, devenir une alimentation animale. Si on est, on a plus de protéines végétales pour l'alimentation de nos troupeaux, eh ben, on va moins importer de soja du Brésil, qui contribue à la déforestation de l'Amazonie, voire plus du tout, idéalement. Dans 10 ans, il n'est pas impossible de se passer de ce soja importé qui contribue à la déforestation. Donc c'est bon pour l'élevage et c'est bon pour l'alimentation humaine, puisqu'on a aussi besoin de rééquilibrer notre alimentation. Et un certain nombre de gens dans votre entourage, probablement Étienne, en tous les cas dans le mien, que ce soit nos enfants, mais pas uniquement, deviennent des militants, des adeptes et cuisinent. Redécouvre les lentilles. Pour montrer que cet enjeu est mondial, ça m'avait surpris quand j'étais, il y a quelques années, on était allé nouer des partenariats en Inde avec des organisations de recherche. Et bien, même en Inde, qui est quand même un des pays qui a une histoire culinaire et agricole extraordinaire en termes de lentilles, c'est un problème de santé publique et c'est un problème agricole. Et donc, on travaille avec nos collègues en Inde pour réintroduire des lentilles dans les rotations agricoles de leurs agriculteurs qui avaient migré de façon trop rapide et trop forte sur les cultures qui avaient le meilleur rendement économique et y compris donc des céréales et du riz, mais n'ayant abandonné les lentilles, avec des problèmes d'alimentation aussi dans les jeunes générations indiennes carencées sur un certain nombre de nutriments. Et donc on a monté un programme de recherche avec les Indiens, pour les aider sur la sélection génétique de leurs lentilles, accompagner aussi leur coopérative agricole dans la transition agroécologique. Donc c'est à la fois des systèmes agricoles qui sont pas évidemment les mêmes, qui n'ont pas vocation à être standardisés, mais on a quand même, on retrouve des problématiques qui vont être similaires. Et donc on a une alimentation possible et qui doit être accessible. Ce matin, on avait un débat sur le stand d'INRAE au Salon de l'Agriculture avec des associations qui travaillent sur l'insécurité alimentaire en France. On a aujourd'hui en France, sans se projeter en 2050, 8 millions de personnes qui n'accèdent pas à une alimentation saine et durable.
Aujourd'hui, en 2022.
En 2022, on n'est pas en 2050. 8 millions de personnes n'accèdent pas pour des raisons majoritairement économiques. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes isolées, de foyers monoparentaux qui sont en situation de tension économique, qui ont qui se décrivent comme ayant du mal à accéder à l'alimentation de base pour satisfaire leurs besoins. Donc, c'est peut-être pas la totalité de la photo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas davantage de gens encore qui ont une alimentation carencée d'un point de vue nutritionnel. Donc, comment on répond à ça aujourd'hui et comment on va répondre demain? Ça n'aurait pas de sens, évidemment, de concevoir des transitions agroécologiques qui seraient réservées qu'à la partie la plus favorisée de la population. Un, ça serait injuste d'un point de vue social et deux, ça serait inefficace d'un point de vue environnemental. Parce qu'on n'aura pas bouclé notre équation. On s'adresse aux 9 ou 10 milliards d'habitants de la planète en 2050 et il faudra que chacun ait dans le respect de sa culture, de ses préférences alimentaires et de sa capacité, de son accessibilité économique, puisse accéder à ces régimes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on conçoive des régimes alimentaires qui sont entre 2,50€, 4€ par jour. C'est les modèles sur lesquels on travaille. Et donc, qu'ils soient quand même agréables à manger. Hein. C'est pas... Donc, voilà. On a des travaux avec nos économistes aussi qui regardent comment ce qui est souhaitable pour un équilibre nutritionnel alimentaire est concevable dans les fermes françaises en respectant l'environnement à un coût acceptable par le consommateur. Ça, c'est ça pour moi, le graal final de nos recherches. C'est de trouver cette équation-là et qui ne sera pas unique. C'est complètement fou d'imaginer ça, mais l'idée, c'est de travailler sur des systèmes cibles qui vont être ensuite déclinés en fonction des pays, en fonction des territoires.
Il y a un slogan, Philippe Mauguin, qu'on entend beaucoup, il faudrait manger moins, il faut, en tout cas dans certaines régions, il faudrait manger local et il faudrait manger de saison. Est-ce que ça a un sens?
Alors, manger moins, si on regarde les recommandations, je ne suis pas nutritionniste moi-même, mais
2700 calories
voilà,
par jour, par personne.
Moi, je crains d'être très légèrement au-dessus, je ne mesure pas tous les jours, donc je pense qu'il y a... Et c'est vrai que si on fait la projection de... on aurait presque pu commencer nos débats là-dessus, en fait, mais on peut l'aborder maintenant. La transition démographique, comment on passe de 7 à 10 milliards d'habitants sur la planète? Si on fait du business as usual, comme disent les économistes, et que les 10 milliards d'habitants consomment la même moyenne calorique qu'aujourd'hui sur la planète, il faut quasiment doubler la production alimentaire. Et il faut le faire avec l'effet croissant du dérèglement climatique. Si on a perdu, a priori, il y a une publication dans Nature qui est sortie il y a quelques jours ou quelques semaines qui montre que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, donc fait quand même sur 60 ans, on a perdu 20% de la productivité agricole au niveau moyenne mondiale à cause de l'effet du dérèglement climatique. C'est-à-dire que on a perdu les 7 dernières années de progrès technique. Donc en fait, il y a une forme de course.
Par le simple effet de la montée des températures ou voilà. Aussi par la dégradation des sols?
Par le simple effet du climat, de l'effet du dérèglement climatique lié à l'action de l'homme. C'est voilà une grosse modélisation qui a été faite, mais c'est intéressant, ça donne un ordre de grandeur. Donc l'effet du changement climatique, il est déjà actuel aujourd'hui, il a déjà ralenti le progrès, on va dire, agricole ou agronomique au niveau de la planète. Et donc on se projette dans les 25 ans qui viennent, avec plus 30% de population mondiale, avec pas de sol agricole en plus, on n'a pas de réserve de sol agricole, sauf à déforester. Et évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, si on veut pas encore amplifier le dérèglement climatique. Donc on travaille sur, en gros, des sols agricoles, il y en a peut-être un peu qui vont être libérés. Malheureusement, l'effet du dérèglement climatique et le dégel des sols, du tchernozium ou d'autres dans un certain nombre de contrées, va peut-être libérer des terres agricoles. Mais globalement, on est sur des sols agricoles qui vont plutôt être mis encore grignotés parce que l'accroissement de la population augmente les métropoles, augmente l'artificialisation sur les sols. Et si on veut pas toucher à l'équilibre forêt-agriculture, on voit qu'on est quand même, il faut jouer avec les sols agricoles aujourd'hui. Moins d'intrants, soit parce qu'on aura décidé d'en consommer moins, ce qui paraît logique si on veut décarboner l'économie, soit parce que les prix de l'énergie seront devenus tellement chers de toute façon qu'on pourra plus les utiliser. Et donc on voit que cette équation-là, elle est compliquée et que pour arriver à la boucler, eh ben, il faut du progrès technique, c'est sûr, des transitions agroécologiques, mais il faut l'évolution des régimes alimentaires. Et donc, je reviens à la question, si on ne fait pas cette évolution, si on ne fait pas cette trajectoire, alors on aura une insécurité alimentaire encore plus forte en 2050, avec des dérèglements politiques, des migrations, des tensions, etc. Donc on n'a pas d'autre choix. C'est vrai d'une manière générale, hein, sur l'évolution de nos sociétés pour changer de modèle face au changement climatique. Mais il faut aussi le réussir pour l'agriculture dans les 10 à 15 prochaines années. Il faut réussir cette transition. Et c'est à la fois une transition de l'agriculture, mais c'est aussi une transition de nos régimes alimentaires.
Philippe Manguin, il y a un chiffre qui m'a surpris, qui m'a impressionné. J'ai lu que si on divisait par deux le gaspillage alimentaire des consommateurs, ça réduirait de 5% le total des émissions de gaz à effet de serre de la planète.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour abaisser ce gaspillage? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que c'est une affaire de sciences humaines et sociales? Est-ce que c'est une affaire d'organisation, de production?
C'est une partie de la solution de la sécurité alimentaire mondiale. C'est à la fois important pour l'effet de serre et c'est important pour boucler notre offre alimentaire. 30% de gaspillage alimentaire de façon schématique dans les pays du Nord, 30% de pertes de récolte agricole dans les pays du Sud, faute de capacité de stockage.
Si on est organisé, on pourrait
gagner là-dessus. Mmh. Voilà, et le réduire de la moitié déjà, on va pas arriver à zéro gaspillage alimentaire, on n'arrivera pas à zéro perte après récolte. Mais un bon objectif dans les 10 à 15 prochaines années, c'est de diviser par deux ce gaspillage alimentaire. Et c'est possible, alors c'est possible en combinant, il faut que l'ensemble des acteurs s'engagent, à la fois les entreprises agroalimentaires. Et il y a des discussions et des projets de recherche avec elles pour changer les portions. Il faut changer aussi les comportements, le marketing des produits. La distribution s'est engagée, mais encore pas suffisamment pour avoir un recyclage des produits en fin de vie. Et le recyclage, il peut être fait de différentes façons, évidemment dans le respect de la sécurité sanitaire, pour soit proposer d'autres produits, des purées de légumes, des soupes, etc. Et aussi assurer la solidarité avec les acteurs des banques alimentaires et de la solidarité. Mais c'est un sujet compliqué, ça commence chez chacun d'entre nous. C'est ça qui est toujours un petit peu difficile, c'est-à-dire que tous les acteurs attendent des politiques, et c'est normal, qui prennent des décisions courageuses. Les acteurs agricoles doivent bouger dans leurs pratiques agricoles, les acteurs alimentaires, mais les consommateurs aussi. Et les consommateurs citoyens, on a une partie de la solution entre nos mains.
Alors parlons un peu d'économie, Philippe Mauguin. Il y en a qui proposent une taxe carbone sur la viande, d'autres qui proposent au contraire de subventionner les fruits et les légumes. Est-ce que ces façons, disons, de jouer sur l'économie ont un effet positif? On pourrait en avoir un sans créer d'inégalité sociale?
C'est une question compliquée. On a effectivement des chercheurs qui travaillent sur la combinaison de ce qu'ils appellent le signal prix, les signaux prix, et l'intérêt d'avoir un signal prix sur les produits. Mais c'est très compliqué en termes de justice sociale. Les comportements, parce que quand on regarde les comportements des consommateurs par rapport au régime alimentaire, globalement, les classes favorisées ont plus peut-être accès à des produits qui sont des produits équilibrés. Et donc, on voit mal comment l'excès de soda, l'excès de produits carnés de qualité qui est parfois variable, qui est fait dans certaines catégories de population, en le taxant, on va cibler des taxes sur les catégories les moins favorisées au niveau social pour faire changer leur comportement. C'est franchement compliqué. Et c'est vrai que du coup, c'est un travail qui est fait par certains de nos chercheurs avec des associations qui sont dans les quartiers, qui sont dans les territoires défavorisés, pour trouver des systèmes. On avait ce débat encore une fois ce matin. Il y a des expérimentations à Montpellier, à Marseille, dans différents territoires, de voir comment on peut donner des signaux et de l'accompagnement. Certains parlent d'une sécurité sociale alimentaire pour les catégories les moins favorisées, qui soit une sécurité sociale alimentaire, c'est 150 euros par mois, c'est pas quelque chose d'inaccessible, qui oriente vers les bons produits et vers les bonnes consommations. Moi, je crois plutôt à une démarche positive comme ça qu'à une démarche de fiscalité punitive.
Philippe Mauguin, merci. On sent chez vous beaucoup d'énergie, qui est une des formes de l'optimisme. Mais on sent quand même qu'il va y avoir beaucoup de travail.
C'est ça. Comme me disait Gramsci, il faut conjuguer le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. J'essaye de faire ça un peu tous les jours.
Merci à vous d'être venu à Science en Question. C'était donc Science en Question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son d'Ali Yahar et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Thank you.